chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Ce jour, nous parlerons d'occultisme, et nous allons en parler à la lumière de la parole de Dieu, avec cette lampe, cet éclairage parfait, nous pouvons connaître quelles puissances surnaturelles sont derrière ce qui est occulte, c'est-à-dire caché. L'occultisme, sous ses diverses formes, attire et séduit un grand nombre de personnes, hélas, non pour leur épanouissement, mais bien pour un asservissement, comme en ont témoigné nombreuses de ses victimes. Le psaume 19, verset 8 déclare ceci. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Nous avons là une double affirmation. D'abord, la loi de l'Éternel est parfaite. Avec sa conséquence, elle donne du réconfort. Puis, le témoignage de l'Éternel est vrai. Avec comme conséquence, il rend sage celui qui manque d'expérience. Il y a bien des années de cela, un homme m'a demandé de passer chez lui pour un entretien. À l'adresse indiquée, une plaque. Alain, astrologie cartomancie. Dès le début de notre conversation, il m'a posé cette question. Que pensez-vous de mon activité ? Pour toute réponse, je lui ai lu ceci. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 13. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. À la lumière de ce texte, je lui ai dit qu'il était sur une mauvaise voie. Sa réponse m'a surpris. Je le savais, dit-il, mais je voulais vous l'entendre dire, et de me conter comment il en était arrivé à cette activité, et comment il était obligé de dormir, la lumière allumée, tant les angoisses qui l'étreignaient étaient fortes. Le jour même, il a mis un terme à son activité, et le Seigneur l'a délivré de toute angoisse, et a pourvu rapidement à un emploi de technico-commercial qui l'a mis à l'aise sur le plan financier. Le prophète Ésaïe a dénoncé la vacuité du recours à l'astrologie. Je lis Ésaïe chapitre 47, versets 13 à 15. Tu t'épuises à consulter les astrologues. Eh bien, qu'ils se présentent et qu'ils viennent te sauver, ces astrologues qui observent les astres, annonçant tous les mois ce qui doit t'arriver. Ils auront le sort de la paille. Le feu les consumera. Ils n'échapperont pas aux flammes. Et ce ne sera pas un petit feu de braise où l'on peut cuire son pain, ni un simple foyer où l'on vient se chauffer. Tel sera le sort de tes sorciers que tu prenais tant de peine à consulter depuis ta jeunesse. Ils partiront à l'aventure chacun de son côté. Aucun ne pourra te sauver. La divination est l'une des voies de l'occultisme. Que ce soit par l'astrologie ou la cartomancie, voire par la chiromancie qui se base sur l'interprétation des lignes de la main, l'homme cherche à connaître les choses cachées du passé, du présent ou du futur le concernant. Et parfois, l'expression directe de l'esprit de Python ajoute à la confusion. Je lis Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 18. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Aucun signe particulier ne permettait d'identifier Paul et ses compagnons. Cette déclaration de la femme est surnaturelle. C'est le fait de l'esprit mauvais qui l'habite. Et l'exactitude de ses propos n'a aucune origine divine, comme souvent on le prétend. L'apôtre a montré dans cette situation qu'il n'y a rien de commun entre la lumière de l'Évangile et les divinations de l'occultisme. Une petite précision à l'attention de certains spécialistes de l'exorcisme. Paul, pas plus que Jésus, n'est un chasseur de démons à la manière des chasseurs de primes qui, dans le Far West, poursuivaient les bandits dont la tête était mise à prix sur affichette avec la mention « wanted », c'est-à-dire « recherché ». Paul, comme Jésus, chassait les démons quand il croisait sa route, et cela afin de délivrer des individus captifs et asservis. La magie est une autre voie de l'occultisme. Elle cherche à modifier le cours des événements afin de favoriser la réussite en affaires, en amour, etc. Le magicien a recours à des amulettes, à des talismans, à des formules incantatoires, qu'il appelle d'ailleurs des prières. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, il est fait mention d'un magicien nommé Simon. Il suscitait étonnement et admiration chez ses concitoyens. Et l'on disait de lui, « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Simon est entouré de possédés, de paralytiques et de boiteux. Et tout change quand l'évangéliste Philippe vient dans la ville prêcher le Christ. La population tout entière est très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entend et voit les miracles qu'il accomplit. En effet, des esprits mauvais sortent de beaucoup de malades en poussant un grand cri et de nombreux paralysés et boiteux sont également guéris. Ainsi, la joie est grande dans cette ville. La supériorité de la puissance est évidente avec les bons fruits qui l'accompagnent. Même évidence qu'en Égypte avec les magiciens face à Moïse. L'envoûtement est une facette de la magie visant à dominer quelqu'un, à anéantir sa volonté, en un mot, à lui nuire. Celui qui appartient au Christ n'a rien à craindre. Balak, le Moabite, avait fait chercher à prix d'argent le devin Balaam pour maudire Israël. Épisode rapporté dans le livre des Nombres, chapitre 22 à chapitre 24. Mais Balaam ne peut pas maudire, et il dira à Balak ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Les guérisseurs, qui en France sont plus nombreux que les médecins, s'appuient sur le magnétisme ou quelques dons particuliers transmis par un ancêtre. Nous sommes là, à l'opposé de l'Évangile. Écoutons ce que dit l'apôtre Pierre, après la guérison du boiteux de naissance qui mendiait à la porte du temple. Je lis, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12. Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Ou pourquoi fixez-vous les yeux sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous ayons fait marcher cet homme? Et de préciser, je lis au verset 16, « C'est par la foi au nom de Jésus qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. » J'ai rencontré, il y a des années de cela, une personne communément appelée « coupeur » ou « passeur de feu ». À la lumière de l'Évangile, elle a découvert que ses formules incantatoires étaient à l'opposé de la foi. Elle a accepté Jésus comme son sauveur et nous avons brûlé tous ses livres de magie. Elle a été délivrée de l'angoisse qui l'oppressait. la joie de Dieu a rempli son cœur et toute sa famille s'est tournée vers Dieu. Alléluia. Nous aborderons le spiritisme, autre facette de l'occultisme, après la page musicale.
Tu es une lampe à mes pieds, tu éclaires ma vie. Tu es la lumière sur mon sentier, tu m'animes de ton esprit. Seigneur, tu as fermé mes pas, tu m'enseignes tes lois. Jésus, tu es mon roi. Tu fais toute ma joie. Jésus, tu es mon roi. Je veux marcher dans tes voies. Tu es mon secours dans la détresse. C'est en toi que j'espère. Tu es ma raison de vivre pour toi sur cette terre. Seigneur, tu conduis mes pas. Tous mes désirs sont devant toi. Jésus, tu es mon Seigneur. Ton amour inonde mon cœur. Jésus, tu es mon Seigneur.
Notre réflexion sur l'occultisme nous amène à mettre maintenant l'accent sur le spiritisme. C'est la croyance à la communication possible avec les morts. Il s'articule autour d'objets animés tels des tables tournantes ou des médiums qui font office de postes récepteurs. On peut comprendre que certains soient séduits par la pensée de garder une communion avec les défunts bien-aimés, sans parler de motifs cupides, car dans telle famille, le grand-père est parti sans dire où il avait caché la cassette contenant les pièces d'or. Quel éclairage nous en donne la parole de Dieu. Voici ce qui est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 6. Les morts ne participeront plus jamais à tout ce qui arrive ici-bas. Et dans le livre de l'Apocalypse chapitre 14, verset 13, il est écrit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant ». Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Ces choses étant posées, à savoir que les morts sont dans le repos et qu'ils n'interviennent pas dans le monde qui est le nôtre, nous allons analyser le texte relatant la démarche du roi Saül consultant une femme qui interroge les morts. Ce récit est rapporté dans le premier livre de Samuel, chapitre 28, versets 3 à 20. À l'attention de ceux qui prennent des notes, je répète cette référence. Premier livre de Samuel, chapitre 28, versets 3 à 20. Quelle est la situation? Les Philistins se préparent à l'attaque. À la vue de leur camp, Saül a très peur et se met à trembler comme une feuille. Il interroge l'Éternel, mais n'obtient aucune réponse. Saül est en pleine déchéance. Dans son désarroi, il ordonne à ses officiers ceci. « Cherchez-moi une femme capable d'interroger les morts pour que je puisse aller la consulter. » Rappelons que Saül avait interdit dans son royaume les pratiques consistant à évoquer et interroger les morts. Cela en accord avec le passage de Deutéronome, chapitre 18, verset 11. Texte qu'il avait dû écrire de sa main en sa qualité de roi. Déguisé et accompagné de deux hommes, Saül arrive de nuit chez la femme qu'on lui a indiquée et il lui dit « Je désire que tu interroges un mort pour moi. Fais apparaître celui que je vais t'indiquer. » Réponse de la femme inquiète « Tu sais bien que Saül a éliminé du pays les pratiques consistant à évoquer et interroger les morts. Est-ce que tu cherches à me tendre un piège pour me faire mourir ? Afin de dissiper les réticences de la femme, Saül lui garantit, serment à l'appui, qu'elle ne court aucun risque. Question : combien d'individus dans le pays pouvaient lui faire un tel serment ? Un seul, le roi Saül en personne. Et Saül demande à être mis en contact avec le défunt prophète Samuel. Nous n'avons pas d'indication concernant le support utilisé par la femme pour sa prestation. Boule de cristal ? Miroir ? En voyant Samuel, selon les dires de la femme, elle déclare à son interlocuteur qu'il est Saül. La séquence continue, et quand la femme évoque un vieillard enveloppé d'un manteau, Saül comprend qu'il s'agit de Samuel. Saül ne voit rien, mais il est persuadé d'avoir affaire à Samuel. Et l'échange qui a lieu anéantit Saül et le plonge dans l'épouvante. Le lendemain, il périt sur le champ de bataille. Et l'Écriture précise, premier livre des Chroniques, chapitre 10, verset 13, « Saül mourut parce qu'il avait été infidèle envers le Seigneur. Il avait négligé d'obéir à ses commandements et il avait même évoqué l'esprit de mort. » Question : qui est derrière cette réalité puisque les morts n'ont pas de contact avec les vivants ? Réponse : ce sont des esprits de ténèbres, des démons. L'occultisme sous ses diverses formes, tout comme l'idolâtrie, met les hommes en communion avec les démons. C'est ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, « C'est pourquoi, mes chers amis, gardez-vous du culte des idoles. » Et Paul conclut sa mise en garde par ces mots, « Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. » Il y a un danger bien réel et très grand. C'est la raison d'être des interdictions et des avertissements donnés par la parole de Dieu. Certes, il y a des charlatans avec des pratiques attrape-nigauds. Cela ne menace que notre portefeuille. Mais d'autres sont réellement manipulés par le diable. Aucune manifestation surnaturelle ne peut procéder de l'esprit de l'homme. Avant de conclure, un autre exemple donné par l'Écriture pour souligner, si besoin est encore, que ces choses doivent être prises très au sérieux. Je lis Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 et suivant. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient : nous vous ordonnons de sortir par le Jésus que Paul prêche. Mais un jour, l'esprit mauvais leur répondit : je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. L'événement a fait un grand bruit et a mis en lumière la réalité du monde des ténèbres. Car il est écrit au verset 17, « Les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, apprirent ce fait. Ils furent tous saisis de crainte. » Et l'on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Jésus. Et en conséquence directe de cela, il est précisé qu'un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie ont apporté leurs livres et les ont brûlés devant tout le monde. La valeur de ces livres était estimée à 50 000 pièces d'argent. Bien-aimés, la voix de l'espoir nous vient de l'Évangile. Jésus apparut pour détruire les œuvres du diable. Il nous appartient de nous tourner vers lui. C'est le choix, la décision qui s'impose si nous cherchons un vrai secours. Bien-aimé, as-tu été entraîné dans une de ces voies évoquées précédemment ? Ressens-tu sur ta vie comme une chape de plomb ? Jésus veut te mettre à l'aise, te rendre libre. L'Écriture nous rappelle que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il appelle chacun à changer de comportement. Bien-aimé, sur la croix, Jésus est mort pour toi, pour expier tous tes péchés est amené à la lumière du salut. Aujourd'hui, donne-lui ton cœur, simplement, avec tes mots. Parle-lui directement. En nous quittant, bien-aimé, une dernière recommandation. Nourris ton âme par la lecture de la parole de Dieu et fais connaître autour de toi la grâce que le Seigneur t'accorde. Amen.